Cleveland's 100 points out to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Nous sommes là pour une dernière soirée. Cette semaine, demain seront les meilleurs moments. Et je sais déjà qu'à quelque part dans les meilleurs moments de Radio X-Files demain, il y aura l'émission de mardi qui a extrêmement attiré l'attention des auditeurs. On a reçu de super de bons commentaires. Mais là, c'est jeudi et on se concentre sur une de mes soirées probablement préférées. Et Christian est très bon pour attirer mon attention là-dessus, les deux. On a l'air un peu psychopathe, je pense, mais c'est parce qu'on est passionnés du sujet. Bonsoir, Christian, et c'est la thématique crime ce soir.
Oui, bonsoir, Camille. Et effectivement, donc ce soir, on va aborder une série de crimes tout à fait monstrueux à caractère occulte qui se sont produits à la fin des années 80. On est en pleine période de ce qu'on a appelé la peur satanique aux États-Unis. Et évidemment, il va y avoir un énorme écho dans la presse nationale américaine. Mais avant d'aborder le sujet, inutile de te dire que des crimes aussi monstrueux ont inspiré Hollywood.
Oui.
Donc, l'affaire a été portée. Bon, évidemment, on a pris beaucoup de liberté. Mais en 2007, l'affaire a été portée au cinéma dans un film qui s'appelle Borderland. Et j'avertis les gens, on va entendre la bande-annonce. Si vous regardez ce film, je vous le dis tout de suite, la scène d'entrée est particulièrement violente.
Et si vous écoutez ce soir, parce qu'on le fait à tous les jeudis, la semaine dernière, on se l'est fait dire qu'on l'avait oublié. Émissions du jeudi sont pour des âmes plus endurcies. Hein? Les âmes
s'abstenir. Oui, parce que il y aura la description de certains crimes qui sont monstrueux. Donc, bien sûr, les gens qui sont un peu sensibles par ces descriptions, souvent un peu contre nature, alors mieux vaut être prévenu. Voici, pour se mettre dans le bain, voici la bande-annonce de Borderland. Malheureusement, je ne l'ai que la bande anglaise, mais j'ai vu le film en français, donc il est disponible. Donc, Borderland, film de 2007, qui reprend, en fait, avec beaucoup d'exagération et de liberté, les crimes dont on va parler ce soir, qui sont passés à l'histoire comme étant les sacrifices humains de Matamoros.
What? No way. Imagine a land, if you will, where a man can be a man.
Mm-hmm.
A land where he can ride the demon.
Vámonos a la frontera!
There's no God. Most people are terrified by that thought.
There are many, and they live among us.
Whoa, whoa, whoa. You're not leaving.
I'll just catch up with you guys later.
My friends and I can give you a ride.
You know, I'm gonna walk anyway.
Hello?
Where am I?
The other side of the rainbow.
If Santillan took your friend, there's nothing you can do.
In return for the gods' protection, he gives to them...
sacrifice.
I know where his friend is.
Los Espíritus.
Papa's gonna use you to talk to him.
What's gonna happen to me?
He's alive.
So what do we do?
I'm scared.
Shadow of death. I fear no evil. For the heart of me, thy rod and thy staff, they comfort me.
What I need. Screams.
Ce que je retiens le plus, oui, dans la bande-annonce, c'est les sacrifices.
Sacrifice. Et ici, contrairement à d'autres crimes qu'on a évoqués dans le passé, au cours des dernières semaines, où on avait des gens qui souffraient de troubles mentaux.
Oui, la question revenait souvent de mon côté.
La question revenait souvent, oui. Donc ici, dans l'histoire des sacrifices de Matamoros, on n'est pas dans cet univers-là. Donc tous les gens qui, entendons-nous, là, si on fait des sacrifices humains, il y a quelque part où on a déraillé.
Oui.
Mais on n'est pas dans le trouble psychologique, comme par exemple, on l'a vu avec le vampire de Sacramento, hein, qui tuait ses victimes, qui croyait que son corps pourrissait de l'intérieur, puis qu'il devait boire du sang, oui, etc. Donc, on n'est pas dans cet univers-là ici. On est réellement dans un univers de sorcellerie et de croyances qui vont conduire à des rituels occulte. J'utiliserai pas le mot satanique, contrairement à la presse. Je t'expliquerai pourquoi.
Okay.
Mais ce sont vraiment des crimes occultes. Donc, on se remet dans le bain. Encore une fois, on avertit les gens. Certaines descriptions peuvent paraître choquantes. Et même comme le film Borderland, dont on vient d'entendre la bande-annonce, je le rappelle, la scène d'entrée est particulièrement violente. Donc, vous voilà prévenu. Donc, notre histoire commence. On est en 1989. On est dans cette période, là, comme je t'ai mentionné, cette période de peur satanique aux États-Unis où le diable est partout. Mais pour l'occasion, cette préoccupation-là est loin de notre groupe, parce que notre groupe met en scène 4 jeunes. En fait, on est durant la période de relâche scolaire qui se produit en mars, et c'est la relâche scolaire universitaire. Donc, comme chaque année, hein, ça devient un peu, c'est un rituel dans toutes les universités aux États-Unis. Cette relâche-là, elle est très importante, tant pour les jeunes, bien sûr, que sur le plan économique. Hein, il y a des destinations, vacances, des destinations qui sont festives et que les jeunes aiment se rassembler. Donc, comme faut quand même le dire, lorsqu'arrive cette fameuse relâche universitaire, elle bat au rythme de 3 mots: alcool, sexe et rock'n'roll. Hein,
oui.
C'est un peu ce qui anime, c'est la jeunesse estudiantine, là, et c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai en 1989. Donc, notre affaire commence. Pour bien dire, le 10 mars 1989, on a 2 jeunes étudiants, un type qui s'appelle Mark Kilroy, c'est un jeune étudiant de 21 ans, il fréquente l'Université du Texas, et son ami Bradley Moore, qui lui a 20 ans, tous les deux se rencontrent le matin du 10 mars 1989 et quittent la ville d'Austin à destination de Santa Fe, où ils doivent rejoindre 2 autres amis, un certain Bill Aldolston puis Brent Martin. Donc, on est ici, là, ce sont des jeunes, 20-21 ans, ce sont des jeunes qui se connaissent bien. À l'école secondaire, ils fréquentaient tous les 4 la même école secondaire de Santa Fe. Ils faisaient du sport ensemble. Ce sont de très bons amis. Et leur intention, donc, c'est de se retrouver à Santa Fe pour ensuite prendre la route en direction de South Padre Island, qui se trouve sur la côte sud-est du Texas, en plein sur le golfe du Mexique. C'est une destination très populaire. Pour te donner des chiffres comme ça, chaque année, là, il y a 300 000 vacanciers qui se rendent sur les plages de sable blanc de South Padre Island.
Écoute, okay.
Petite anecdote, j'y suis allé, puis c'est tellement beau que j'ai failli manquer mon avion.
Ah!
J'étais allé avec le caméraman, puis écoute, on s'émerveillait, puis à un moment donné, on regarde notre montre, puis on dit, écoute, on a un avion à prendre à Corpus Christi dans 2 heures, puis on a 3 heures de route à faire.
Ça aurait été un beau problème. Être pris dans un endroit aussi paradisiaque.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique. Donc, nos jeunes arrivent là, un peu plus tard dans la journée, ils arrivent, ils logent au Sheraton Hotel de South Padre Island. On est, comme je te dis, un endroit là, qui est excessivement festif, et l'endroit est rempli de jeunes qui sont là, bien sûr, pour faire la fête. Donc, nos jeunes passent la première journée tout à fait festif. Le dimanche, les jeunes, nos 4 jeunes, puis hein, c'est testostérone dans le tapis, là. Nos jeunes assistent à un concours de Miss Bronzage.
Oh boy! Mais,
on n'entrera pas dans le détail ici.
On est capable de se faire nos propres images.
C'est ça, hein, ça pleut beaucoup sur les t-shirts. Et là, on a nos... D'ailleurs, notre Mark Kilroy, c'est un jeune qui est... C'est un jeune qui est très populaire auprès de la gente féminine. Hein. Il est un peu réservé, mais c'est un beau garçon. Hein. Il y a des allures un peu de tu sais, il y a un sourire là, tout à fait éclatant. Il pourrait faire des publicités de dentifrice. Tu vois le genre, et il est blond, on dirait un jeune sorti en fait des pages de, tu sais, le Beach Boy là, tu sais là, et donc il est très séduisant, il attire beaucoup la gente féminine, et donc nos jeunes en ont pour leur argent là, c'est le plaisir à fond, alcool, filles, tout le reste. Le lendemain, donc, on est le lundi, pour la deuxième fois, les jeunes vont se rendre à Brownsville. Brownsville, pour te situer, c'est la dernière ville au sud du Texas, et elle est littéralement sur la frontière du Mexique. Hein. En fait, la ville, elle est séparée du Mexique uniquement par le Rio Grande, et il y a un pont qui enjambe un peu les eaux un peu boueuses du Rio Grande. Là. On voit des westerns, puis nous décrivent le Rio Grande, je peux te dire, pour l'avoir vu, que c'est plutôt boueux, le Rio Grande. Mais enfin, il y a ce pont, l'International Bridge, qui sépare le Mexique des États-Unis. Et bien sûr, c'est un poste frontalier qui est excessivement occupé. Écoute, pour te donner une image, je t'en parle et je revois les scènes là, parce qu'on a fait, j'ai fait un documentaire sur cette histoire-là, et je revois les scènes là, où les gens, à longueur de journée, là, du côté mexicain-américain, là, ça circule, là, c'est, il y a comme, on a le pont, de chaque côté, il y a des espaces piétonniers et ça circule à longueur de journée. Et dès qu'on arrive de l'autre côté, il y a des travailleurs mexicains qui viennent au Mexique au quotidien pour travailler, pour faire des échanges commerciaux. Okay. Et réellement, là, dès de l'autre côté du pont, là, il y a vraiment un... Je dirais une espèce de souk à ciel ouvert où il y a des échanges qui se font entre Américains et Mexicains qui traversent la frontière. C'est très, très, très achalandé. Donc, nos jeunes, et ça devient très compliqué de traverser en voiture. Parce que, écoute, t'es toujours coincé, là, dans une file qui peut être longue de 2 ou 3 kilomètres, là, pour passer la frontière. Donc, nos jeunes ont compris le truc. Ils arrivent à Brownsville ce soir-là, laissent leur voiture dans un stationnement d'un centre commercial à Brownsville et traversent la frontière à pied. Ils vont du côté mexicain et la raison est simple, disons les choses comme elles sont. Du côté mexicain, les règles sont beaucoup moins strictes. Donc, les bars ferment à 3 heures, on peut fréquenter des bars de danseuses, l'alcool coûte pas cher, on peut avoir aussi quelques substances illicites pour pas cher. Donc, c'est vraiment un endroit. Et nos 4 jeunes ne sont pas les seuls à faire ça, là. Je veux dire, quasiment tous les jeunes, chaque soir, partent de South Padre Island, se rendent à Brownsville et font ce trajet-là. Donc, c'est un peu un rituel. On traverse l'International Bridge, on va au Mexique. De l'autre côté, c'est la ville de Matamoros. Donc, on va là et on fait la fête toute la soirée jusqu'à la fermeture des bars. Et c'est exactement ce qui se passe ce soir-là. Donc, nos jeunes refont ça. C'est le deuxième soir qu'ils le font. Et puis, vers 2 heures du matin, donc un peu avant la fermeture des bars, nos jeunes, plutôt intoxiqués, décident de retourner du côté américain, donc, et de reprendre la voiture et de se rendre à South Padre Island. Bien sûr, les moralistes nous diront, oui, mais ils sont un petit peu intoxiqués, prendre la voiture... C'est la fin des années 80.
Autre époque, je ne peux pas juger. On va mettre un autre avertissement. Les faits énoncés peuvent être survenus dans une autre époque qu'aujourd'hui.
Et si vous buvez, ne prenez pas le volant. Donc, voilà. C'est dit.
Bon. On est politiquement correct, finalement.
Oui, voilà. Donc, nos jeunes, hein, ils reviennent. Et avec eux, hein, il y a plein d'autres jeunes aussi là, qui les accompagnent. Hein. Il y a leur petite cellule, ces 4 amis-là, et autour d'eux, il y a plein de jeunes par groupe de 3, 4 ou 5 qui se dirigent vers le pont pour retraverser du côté des États-Unis. Et donc, nos jeunes donc, quittent le bar où ils étaient et puis peu à peu, dans cette mouvance, hein, cette espèce de marée humaine qui se dirige vers le pont, nos jeunes se retrouvent séparés. Donc, on a 2 jeunes d'un côté, 2 jeunes de l'autre bar. Et puis là, à un moment donné, deux des jeunes, hein, Bill puis Mark, se retrouvent un peu séparés de leurs compagnons. Et là, à un moment donné, Bill demande à Mark, il dit, écoute, il dit, faudrait que j'aille me vider la vessie, hein, trop pleine.
Fait que la
Mark
bière.
Dit, OK, ouais, hein, trop pleine de bière. Et il dit, bon, OK, parfait. Fait que nos jeunes, Mark dit, je vais t'attendre ici. Donc, Bill s'en va entre deux édifices pour se soulager. Et au moment où il tourne la tête, Bill voit que son ami, hein, je parle ici de Bill Huddleston, lorsque Huddleston se lève la tête et regarde par-dessus son épaule, il voit que Mark est en train de discuter avec d'autres jeunes, un jeune Mexicain près d'un camion. Donc, il s'enfonce plus à fond dans la ruelle, dans l'obscurité, se soulage, et quand il ressort, ben Mark n'est plus là. Alors, il regarde autour de lui, ne voit pas Mark. Et puis là, un peu plus loin dans la foule, il revoit ses deux autres amis, Brent Martin puis Bradley Moore, qui sont un petit peu plus loin. Fait qu'il il les rejoint, leur demande « Avez-vous vu Mark? » Et puis les deux autres répondent « Non, on l'a pas vu. » Fait que les autres se disent « Bon, il y a peut-être, pendant que j'étais allé me soulager, il a peut-être rencontré une fille qu'il avait rencontrée à l'hôtel, il est parti avec elle. » Donc, on se pose pas trop de questions. On se dit que on va traverser la frontière, on va retourner à l'hôtel à San Padre Island, et lorsqu'on va arriver là, ben sûrement on va découvrir que Mark est déjà arrivé, il a utilisé un autre moyen de locomotion. Mais malheureusement, ils ont tort. Maintenant, ce que je vais te raconter, c'est l'autre partie, celle qu'on n'a pas vue. Et évidemment, je vais te la raconter comme de manière en utilisant le présent, là. Mais évidemment, il faudrait le mettre au conditionnel. C'est ce que l'on sait par les procès qui ont suivi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Bill allait se soulager la vessie, qu'est-il arrivé à Mark? Donc, ce que l'on sait des minutes des procès qui ont suivi, c'est quoi? À ce même moment-là, alors que Mark était dans la rue, il s'est fait interpeller par un jeune Mexicain qui lui a dit « Hey, viens ici, il faut que je te parle. » Donc, Mark Kilroy s'est approché. Il était un peu intoxiqué, là, hein? On se le cache pas. Il a bu, il a un peu les idées engourdies. Donc, le Mexicain l'interpelle.
Tu remets rien en question dans ce temps-là. T'es comme,
non, non.
Oh,
donc, il a de l'air du fun, lui. Fait que là, Mark s'approche. Là, le Mexicain lui demande, il dit « Tu veux-tu qu'on fasse une balade ensemble? » Et là, Kilroy, qui comprend pas trop, hein, parce que le type, c'est un Mexicain, il parle un anglais très approximatif. Donc, Mark dit « Moi, mais pour aller où? » Et là, ben le Mexicain lui dit « On pourrait ensemble traverser la frontière. » Là, Mark sent qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Pourquoi traverser avec moi la frontière? Est-ce que parce que je suis Américain, ça pourrait lui permettre de traverser la frontière plus aisément, transporter de la marchandise. Donc, même si Mark Kilroy a un peu les idées embrouillées, il n'est pas quand même complètement idiot. Donc, il fait face à ce Mexicain, il échange avec lui, il décline son invitation, et à ce moment-là, il entend derrière lui, il voit le type à qui il parle, lance un appel en mexicain, tu sais. Et là, le temps de se retourner, Mark Kilroy voit deux individus qui se précipitent sur lui, le frappent à l'abdomen, dont Mark se plie en deux. Mmh. Il essaie de se débattre, mais là, il y a trois hommes contre lui, il peut pas faire grand-chose. Là, les deux hommes l'amènent près de la camionnette, on ouvre la portière et on le jette sur le plancher de la camionnette. Les hommes montent à bord de la camionnette et mettent leurs pieds sur Mark Kilroy pour le maintenir bien au fond de la camionnette. Et là, les hommes parlent en mexicain, on démarre la camionnette et le camion part en trombe. Kilroy est couché dans le fond de la camionnette. Il est là, il comprend qu'il est dans une situation de littéralement de survie. Les hommes parlent entre eux. Il ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Et là, bien sûr, il s'interroge. Mais pourquoi lui? Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce qu'on va vouloir demander une rançon? Ses parents, c'est des gens qui appartiennent à la classe moyenne. Ce sont pas des gens qui sont riches. Son père travaille pour le service des douanes ou un truc comme ça. Sa mère est institutrice. Donc un couple tout à fait moyen. Donc, pourquoi lui? Hein? Est-ce qu'on va lui demander une rançon? Alors, la camionnette s'enfonce dans les rues de Matamoros. Si tu comprends, il est 2h30 du matin, en dehors du centre commercial de Matamoros, quand on a quitté le centre-ville. Très rapidement, les rues deviennent désertes.
Ouais.
Et à un moment donné, la camionnette s'arrête. Et le chauffeur dit à ses collègues, à ses compagnons, ses acolytes, il dit « faut que j'aille me soulager hein, ». On est beaucoup dans le soulagement de vessie ce soir-là. Donc, il arrête la camionnette et débarque de la camionnette. La camionnette est arrêtée au milieu d'une rue déserte. Kilroy se dit que c'est peut-être ça, c'est maintenant ou jamais. Donc, il se relève, frappe l'un de ses agresseurs, ouvre la portière, saute dans la rue et se met à courir. Et là, il remonte la rue qui est tout à fait déserte et à l'autre bout de la rue, une voiture arrive, les portières s'ouvrent et il entend des voix qui crient en anglais « Freeze !» Et là, il se dit qu'il doit s'agir de la police. Il s'arrête, les mains un peu relevées au-dessus de la tête, les hommes, trois hommes s'approchent de lui, on le frappe à nouveau et on le jette dans la voiture. Cette fois, il est assis, deux hommes s'assoient de chaque côté de lui, Kilroy est assis au milieu de ces hommes et la voiture part en trombe. Rapidement, on lui attache les poignets avec du ruban adhésif et là, Kilroy, encore une fois, c'est le questionnement, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que vous me voulez? L'un des hommes lui dit en anglais « Ferme ta gueule, shut up » et la voiture s'enfonce, quitte Matamoros. Et Kilroy voit par les fenêtres, bien sûr, il voit qu'on quitte peu à peu l'agglomération et là, il voit se succéder des champs et à un moment donné, on arrive sur visiblement ce qui paraît être une ferme. On débarque Kilroy, rappelle-toi qu'il est toujours attaché au poignet par du ruban adhésif. Il voit, dans l'obscurité, il voit qu'il y a plusieurs bâtiments agricoles, donc visiblement on est sur une ferme. On l'amène dans l'un de ces bâtiments où il y a de la paille et de la terre. Il entre là, on le jette sur le sol, on lui attache également les pieds et on le laisse là. Donc, les gens enquêtent. Donc, tu peux te mettre un peu dans la peau du jeune homme. Il est pieds et poings liés, couché sur un sol de terre battue, dans une ferme, dans une totalité, dans une obscurité totale. Hein. Il y a pas de lumière, il y a pas rien. Là. Il saigne qu'il est couché sur de la terre. Et très rapidement, il entend qu'on ferme la porte de la grange derrière lui. Et là, il entend un bruit de chaînette, donc clairement, on est en train de verrouiller la porte. Donc, pendant de longues minutes, même, je te dirais, des heures, Kilroy va essayer de se détacher sans succès. Donc, évidemment, il remijote, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, les heures s'écoulent, il voit à travers, en dessous de la porte de la grange, il voit que le jour se lève. Et quelque part, en milieu d'avant-midi, les chaînes sont déliées, la porte s'ouvre et un homme s'approche de lui, un vieil homme, qui apporte de l'eau et une assiette dans laquelle il y a des œufs brouillés. Et il fait littéralement manger Mark Kilroy. Il ne le détache pas, il le fait manger. Kilroy l'interroge. « Qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Où suis-je? » On ne lui répond pas. L'homme fait simplement lui donner les œufs, ce que éventuellement Kilroy va refuser. Si on regarde les minutes du procès, il va refuser de manger, va cracher ça. Et puis bon, l'homme se lève, quitte la pièce, puis merci, bonsoir. Donc Kilroy reste là encore pendant quelques heures à s'interroger sur son sort. Et puis à un moment donné, à l'extérieur, il entend le bruit d'une voiture. Et là, évidemment, je te raconte ça comme si j'étais assis aux côtés de Mark Kilroy.
C'est assez
une fois,
détaillé quand même.
Ouais,
dans le...
Mais encore une fois, je te décris ce qui a été dit durant le procès, parce qu'on a un descriptif chronologique assez précis des événements. Donc, Kilroy entend plus tard dans l'après-midi une voiture qui arrive. Il entend les portières qui s'ouvrent, se ferment, donc des gens qui arrivent sur la ferme. Il entend ces gens parler en espagnol. Il comprend pas tous les mots. Il croit reconnaître dans les gens qui parlent, il croit reconnaître l'un de ses agresseurs, le conducteur de la camionnette qui, au départ, l'avait interpellé sur le parking. « Hey, gringo! » Donc, ouais. Il reconnaît cette voix-là et il entend une autre voix qui dit avec lui, qu'il ne connaît pas. Et là, tout d'un coup, encore une fois, des chaînes se délient sur la porte de la grange. La porte s'ouvre et là, une lumière inonde la grange et deux hommes entrent. Il y a effectivement l'homme qui conduisait la camionnette et il y a un autre homme qui l'accompagne, qui semble avoir dans la vingtaine, plutôt beau garçon, des beaux traits, clairement d'origine mexicaine ou portoricaine, hein, assez exotique, si je dirais, là, bien vêtu, tout ça. Et il parle un très bon anglais. Donc, Mark Kilroy lui demande « Qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Est-ce que vous allez me faire du mal? » Et là, l'homme, appelons-le le beau jeune homme, là, dit à Mark Elroy, non, pas du tout. Alors il dit, déliez-moi, détachez-moi. On lui détache les pieds, mais pas les mains, et on le pousse en avant. Et au moment où on se prépare à le sortir de la grange, on lui met un bandeau sur les yeux pour visiblement dissimuler, on veut lui cacher l'endroit où il se trouve. Donc, il y a un bandeau sur les yeux. Et Kilroy, malgré le bandeau sur les yeux, comme je te dis, il est poussé en avant. Il peut voir sous le bandeau, il peut voir ses pieds. Donc, il voit qu'il marche sur un terrain de terre battue, là aussi. Et là, à un moment donné, il voit comme une dalle de ciment. On est clairement arrivé à l'une de ses petite baraque, une de ces petites cabanes qu'il observait durant la nuit au moment où il est arrivé sur la ferme. Et là, il entend un bruit d'un cadenas qu'on retire et on le pousse en avant. Et là, une porte qui s'ouvre en grinçant et Mark Elroy est poussé en avant. Dès que la porte est ouverte, ce qui frappe Kilroy, c'est une odeur épouvantable. Une odeur de charogne tout à fait épouvantable. Et là, le beau jeune homme, lui dit, mets-toi à genoux. Donc, Kilroy, encore une fois, implore, vous allez pas me faire du mal, non, pas du tout, mets-toi à genoux. Mais l'odeur est insupportable, c'est vraiment une odeur de charogne. Donc, Mark Kilroy se met à genoux, et là, il entend autour de lui qu'il y a plusieurs personnes. Il n'est pas seul. Combien, il peut pas le savoir, 3, 4 ou 5 personnes, mais définitivement un petit groupe. Et là, ces gens se mettent à entonner des espèces d'incantations en espagnol, dont Kilroy ne comprend pas le moindre mot. De temps en temps, il entend quelques mots, parce que, bon, évidemment, quand on vit au Texas, si proche de la frontière mexicaine, on baragouine un peu d'espagnol, mais là, ça sent plutôt être des murmures, une sorte de chant religieux, quelque chose. Et Kilroy est là, donc, à genoux. Bien sûr, on peut comprendre la terreur qu'il doit vivre à ce moment-là, ignorant quel sera son sort. Et tout d'un coup, alors qu'il est à genoux, l'homme, le jeune homme, lui dit « Étends-toi ». Et Mark Kilroy s'étend. L'odeur, encore une fois, ce qui le frappe, c'est que l'odeur est insupportable. Il a littéralement, sur le côté de la joue, il sent que son visage est à côté à la fois sur du bois, mais également sur une espèce de substance un peu visqueuse.
Oh.
Et alors que Mark Kilroy s'interroge sur son sort, il a la tête tranchée. Ouais, littéralement. Donc, on le frappe à coups de machette et Mark Kilroy est littéralement décapité à coups de machette. Déjà, c'est tough un peu.
Ouais, il était assez dans les solutions définitives. Hein?
Ouais. Donc, ça, c'est ce qui se passe et ce que ses compagnons ne savent pas. Hein, parce que pour ses compagnons, eux, la dernière fois qu'ils ont vu Mark Kilroy, c'est alors qu'ils s'avançaient avec cette marée humaine vers le pont qui traverse le Rio Grande pour passer au Texas. Donc, ils retrouvent leur voiture dans le stationnement, ils montent à bord, se rendent à San Padre Island, où ils arrivent, il est à peu près 4 heures du matin. Première chose qu'ils font, bien sûr, c'est d'aller voir si Mark Kilroy est là, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, on espère que le lendemain, peut-être est-il parti, peut-être accompagne-t-il une fille, est-il dans une autre chambre.
Oui, il est couché, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, tu sais, ce sont des grands garçons quand même. Là. Bon, fait qu'on attend. Le lendemain matin, arrive le moment du déjeuner. Les jeunes ont une espèce de rituel. Donc, on se retrouve à la petite cuisinette dans l'hôtel, tout ça. Ils se retrouvent à cet endroit-là, mais bien sûr, Mark Kilroy ne se présente pas. Donc, les jeunes sont relativement inquiets. Ils décident cet après-midi-là de retourner à Matamoros. Donc, ils font le trajet inverse, laissent leur voiture dans le stationnement, retraversent le pont, font le tour des bars qu'ils ont fréquentés la veille, en baragouinant un peu l'espagnol. L'un d'entre eux parle assez bien l'espagnol. Il réussit à parler avec des tenanciers, des serveurs, des serveuses. Avez-vous vu Marc? Ils ont une photo du groupe qu'ils ont pris. Voilà, c'est nous, les quatre. Mark Kilroy, c'est celui au centre. Et les jeunes leur reviennent un peu bredouilles. Ils font cette tournée-là sans aucune information. Ils décident le même après-midi de se rendre à l'ambassade américaine du côté mexicain qui se trouve à Matamoros, tout près du poste frontière. Et là, ils rencontrent leur représentant américain, un certain monsieur O'Keefe qui est là. Ils lui parlent, ils lui expliquent que la veille, ils sont venus à Matamoros, ils ont fait la fête. Vers 2 heures, ils sont retournés, ils ont perdu de vue Mark Kilroy et depuis, ils sont sans nouvelles. Monsieur O'Keefe, hein, Michael O'Keefe, qui est le représentant américain du côté mexicain, dit il a peut-être été arrêté. Si vous étiez Eve, peut-être qu'il y a eu une mésentente avec quelqu'un, parce que Bill Olsenstein lui dit écoute, la dernière fois je l'ai vu, il est en train de parler avec un jeune sur le bord d'une camionnette.
Donc, quelqu'un l'aurait vu là.
Oui, on hypothèse, hein, peut-être que M. O'Keefe dit peut-être que ce jeune, ils se sont disputés ensemble, peut-être qu'il y a eu une bagarre, il a peut-être été arrêté par la police de Matamoros. Mais si c'est le cas, vous n'avez pas à vous inquiéter, Mark va être libéré dans le courant de la journée. C'est quotidien ici, les bagarres entre jeunes, puis on les garde pas longtemps, là, quelques heures, le temps qu'ils dégrisent, puis voilà, on les libère.
Okay.
Mais la journée passe. Et on arrive en soirée, à nouveau, Mark Kilroy n'est toujours pas revenu. Donc, les jeunes commencent de plus en plus à être inquiets. Mark est disparu depuis pratiquement 24 heures. Et donc, à ce moment-là, ils vont voir la police de San Padre Island, expliquent la situation. Les policiers lui disent, écoutez, même si ça fait 24 heures que votre compagnon a disparu, c'est un jeune homme, il est dans la vingtaine, il est peut-être parti avec une fille ou quelque chose du genre. Donc, on sent que la police n'est pas très intéressée par l'affaire. Hein? Puis, on peut le comprendre aussi. On est à San Padre Island, c'est la relâche scolaire, les jeunes font la fête, les policiers en ont plein les bras. Là. Tu sais, chaque soir, c'est le tohu-bohu dans les rues, c'est la fête. Donc, les policiers essaient de ménager la chèvre et le chou, puis ils ont beaucoup plus à faire que d'essayer de retrouver un jeune de 21 ans, plutôt playboy, qu'on n'arrive pas à retracer. Tu comprends? On se dit, bon, ben, il va revenir, puis faites-vous-en pas avec ça. Le soir même, les jeunes téléphonent à la famille de Mark Kilroy, et là, ben, on annonce la mauvaise nouvelle. On dit, ben là, on veut
plus,
pas alarmer. Mais ils disent à Hélène Kilroy, la mère de Mark, ils disent, écoute, ça fait pratiquement 24 heures que Mark est pas là, puis on l'a pas vu, etc. Donc, l'affaire commence à prendre une méchante tournure. On est de plus en plus inquiet. Donc, le lendemain, à nouveau, Mark ne se présente pas pour déjeuner. Les jeunes, là, on est rendu quand même le 14 mars, là. Donc là, les jeunes décident d'appeler, rappellent encore Madame Kilroy, lui expliquent la situation. Mark est toujours pas de retour. Et elle lui dit, ben écoute, là, évidemment, c'est l'inquiétude. Hein? La mère est inquiète. Là, ça fait quand même deux jours et demi que son fils n'a pas été revu par ses compagnons. Donc, il y a de bonnes raisons de s'alarmer. Et comme la police de San Padre Island ne semble pas plus inquiète qu'il le faut. Elle, Mme Kilroy, lui dit son mari, Jim, est en déplacement, mais son beau-frère, donc le frère de son mari, lui travaille pour les douanes aussi. Donc, il connaît un peu et il connaît des gens qui travaillent sur les postes frontières entre le Texas et le Mexique. Donc, elle dit, écoute, je vais te donner quelques coups de fil pour voir si je peux pas faire activer les choses.
Si ça peut aider à la coopération, du moins, des autorités.
Voilà. Donc, évidemment, ce coup de fil est donné, les choses commencent à bouger. Dès le lendemain, hein, le 15 mars... les journaux du sud du Texas et principalement les journaux de Brownsville évoquent, hein, dans un journal qui s'appelle le Brownsville Herald, là ça fait quand même 3 jours que Mark Kilroy a disparu. Donc le journal fait un petit article, un petit encadré, un étudiant américain disparu du côté mexicain à Matamoros. Et cet élément-là va... Le fait que la presse, malheureusement, c'est trop souvent le cas, il faut que la presse en parle, il faut que le public soit informé ou alarmé pour que finalement les autorités se mettent à bouger. Donc, à partir du moment où cet article paraît dans la presse, là, les jeunes, évidemment, retournent à la police de San Padre Island. Cette fois, il y a cet article, les gens commencent à être inquiets. Et bien sûr, les parents d'autres jeunes qui sont là à San Padre Island à faire la fête et qui vivent au Texas, qui entendent parler de cette histoire-là, qui est rapidement relayée à la radio, à la télévision, voudraient pas que leur garçon ou leur fille disparaissent aussi. Donc, il y a une inquiétude montante. Donc, la police de San Padre Island explique ce jour-là aux jeunes, on est le 15 mars, écoutez, nous, on n'a pas beaucoup de pouvoir parce que c'est du côté mexicain, mais peut-être que la police du comté, hein, du Cameron County, qui se trouve à gérer la partie de la frontière, peut-être qu'elle aurait plus de pouvoir et pourrait faire fonctionner les choses. Et là, pendant que je te parle, je regarde l'heure et je vois que l'heure passe rapidement. Tabarnouche. Oh, je vais essayer d'accélérer. Je vais essayer de couper des choses. Mais bon, bref. Là, il y a comme une espèce de mouvement populaire qui se préoccupe de où est passé Mark Kilroy. Et finalement, la police de Cameron County va charger un de ses policiers, George Gavito, un individu tout à fait extraordinaire. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec ce bonhomme-là. Écoute, il est incroyable. Donc, on le charge Gavito, qui parle l'espagnol, évidemment, qui est lui-même d'origine mexicaine. On le charge d'enquêter là-dessus. Il appelle du côté du Mexique. La police mexicaine de Matamoros lui répond que ils sont très, très légers. Ils disent non, ça ne nous concerne pas. À mon avis, ça n'a rien à voir. Et puis, d'après nos informations, Mark Kilroy, on a des informations selon lesquelles Kilroy serait retraversé du côté américain le soir même en question.
Ça tombe en deux craques quand il est question d'un touristes, hein? c'est pas voilà. Vraiment de leurs affaires, ce n'était que quelqu'un de passage, on n'a pas à s'en mêler.
T'as tout à fait raison. Mm. Et l'affaire tombe malheureusement, comme tu dis si bien, entre deux chaises. Hein? Du côté américain, on veut savoir ce qui est arrivé à Mark Kilroy, et du côté mexicain, la police se décharge un peu de la responsabilité en disant, on a des informations voulant que le jeune soit repassé aux États-Unis. Donc, le problème est dans votre cour. L'affaire reste comme ça. Et puis, le 9 avril 1989, donc on est à peu près deux semaines après la disparition de Mark Kilroy, un policier de la police fédérale de Matamoros, l'agent Benitez, va arrêter une voiture dans laquelle se trouvent quatre membres de la famille Hernandez. Et Hank, faut que je te raconte cette anecdote, hein, l'agent Benitez me racontait, il se lance à la poursuite de la voiture, tout gyrophare allumé, la voiture continue d'accélérer. Et finalement, quand il les a arrêtés, les quatre membres, quand je dis la famille Hernandez, c'est pas forcément des frères et des sœurs, la famille Hernandez décrit une famille, un clan, ils sont tous frères, cousins, cousines, okay. Mais c'est un clan qui font du trafic de marijuana sur la frontière. Donc, ils sont connus des autorités policières. Donc, quand l'agent Benitez arrête la famille Hernandez, quatre membres de la famille Hernandez, crois-le ou non, ils sont surpris de se faire arrêter. Et l'un d'entre eux dit au policier, il dit, « Vous me voyez? » Fait que le policier dit, « Oui. » Ben, tu tabarnouche. Je suis supposé être invisible.
Oh boy.
C'est quand même... Donc finalement...
T'es sûr qu'il n'y avait rien de santé mentale? Là, parce
non, et donc on les ramène à Matamoros. Hein, et comme je te l'ai mentionné, c'est la famille Hernandez, elle est connue des services de police. Ils exploitent une ferme à Santa Elena qui se trouve en banlieue de Matamoros. Et on suppose qu'elle est utilisée pour faire du trafic de marijuana. Donc on transférait des plants de marijuana, des chargements de marijuana par la ferme de Santa Elena et à partir de là, par des réseaux clandestins, on la ferait passer la frontière de l'autre côté du Rio Grande. Ça fait donc un certain moment que la police fédérale mexicaine a dans son collimateur, cette ferme à Santa Elena où on se dit il y a peut-être des trucs de narcotiques qui se font là. Et la famille Hernandez, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est dans le collimateur de la police. Dans les années 70, elle a commencé son trafic. La famille était dirigée à l'époque par un certain Saul Hernandez, et qui dirigeait un peu comme un parrain là, toute la famille. Et puis, à un moment donné, M. Hernandez, en 1987, a été abattu sur la place publique à Matamoros. Et comme il gardait dans sa tête tous les registres de tous ses contacts à l'étranger, tu comprends que la famille Hernandez, cousins, cousines, tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic de marijuana, se trouvent dans un chaos. Parce que le père est mort, puis le père, c'est lui qui connaît les secrets de la patente.
Ouais.
Donc, il y a une espèce de guerre intestine qui va se faire dans la famille Hernandez. Et certains vont faire de la délation, vont parler à la police. Donc, la police est bien au courant un peu de ce qui se passe. Donc, on arrête les frères Hernandez. Et là, j'ai toujours les yeux rivés sur le chronomètre et je vois le temps qui s'écoule. Donc, on ramène les frères Hernandez à la prison de Matamoros. On commence à discuter avec eux. Et là, l'agent Benitez a l'impression que on lui dit pas tout. Hein, il y a comme quelque chose qu'on lui cache. Donc, il décide ce jour-là de retourner au ranch de Santa Elena avec deux de ses hommes. Il retourne sur la ferme. Et la ferme, il y a un seul gardien, un vieil homme qui est là. Donc, on l'arrête, on l'amène à la police de Matamoros pour l'interroger. On lui explique que les frères Hernandez ont été arrêtés. Et là, à un moment donné, le vieux monsieur est là, il parle, puis on lui montre une... Et là, on se dit, tiens, et si ces gens-là étaient impliqués avec quelque chose à voir avec la disparition de cet Américain dont on n'arrête pas de parler depuis 2-3 semaines?
Ils ont eu très bon réflexe.
Oh, et là, Benitez montre au monsieur une photo de Mark Kilroy. Il dit au monsieur, il dit, est-ce que vous l'avez déjà vu? Il dit, ben certain. Il dit, il était sur la ferme il y a 2-3 semaines. Il dit, je lui ai même donné à manger là, un matin. Puis, savez-vous ce qui est advenu? Il dit non. Il dit, moi, je lui ai donné à manger, je suis parti, puis après ça, ben, il était plus là.
Oh, c'est facile que ça. Bye bye.
Et là, éventuellement, les policiers vont retourner sur la. Là, et on réinterroge à nouveau les hommes du clan Hernandez qui sont détenus. Et là, les jeunes vont. Les gens qui sont sous les verrous vont révéler quelque chose de tout à fait épouvantable. Ils vont dire, ben voilà, il y a eu des rituels qui se sont tenus à la ferme de Santa Elena. Les policiers donc retournent là, mais cette fois, on est vraiment toute une garnison. C'est vraiment un commando de police qui arrive sur la ferme de Santa Elena. Et on fait le tour de tous les baraquements. Et à un moment donné, dans une des cabanes qui ressemble à une petite remise, les policiers ouvrent la porte. Et là, il y a une odeur qui est insupportable. Ah. Les agents fédéraux découvrent là que sur le plancher, au milieu de la pièce, il y a une espèce de grand chaudron qui est maculé de sang, qui contient des morceaux de cerveau humain, tortue grillée. Dans un autre récipient, les agents trouvent des cheveux humains, une tête de bouc, du sang coagulé, des morceaux de poulet. Et disposés sur le plancher, bien, il y a des chandelles à moitié consumées. Et là, évidemment, en voyant ce spectacle-là, tous les policiers en murmurent « brujeria », qui veut dire « sorcellerie ». C'est clair qu'on s'est adonné à de la sorcellerie. Et comme le temps file rapidement,
oui.
J'arrête pas d'être préoccupé par ça.
Non, il n'y a pas de problème, Christian, on a du temps.
Pendant qu'ils vont discuter avec ça, ils retournent donc, ils trouvent ça, ils retournent au poste de police de Matamoros, on leur explique qu'on a trouvé la cabane où on semble avoir fait des rituels de magie. Et là, les jeunes vont dire, nous, on n'a pas vraiment rien à voir là-dedans. C'est, en fait, tout ça relève de El Padrino, le parrain. Et là, pour faire une histoire assez vite, on va découvrir que le clan Hernandez, depuis la mort de Saul Hernandez, comme il y avait des guerres intestines, ils avaient besoin de quelqu'un qui redonnerait un coup de barre au trafic, au commerce de ces gens-là. Et ils ont fait appel à un jeune homme né aux États-Unis, dans ce qu'on appelle Little Havana en Floride. Sa mère est portoricaine, il a vécu à Porto Rico, il a vécu à Cuba, est retourné aux États-Unis, ensuite retourné au Mexique. C'est un jeune homme, au moment où notre histoire se passe, il est dans la vingtaine. C'est un jeune homme qui, à la fin des années 80, a été engagé pour faire du modeling à Mexico. Donc, il a quitté la Floride, est allé faire du modeling à Mexico. Il fréquentait les bars gays de la ville, ce qui l'a mis en contact avec des gens du monde interlope. Et lui, ce jeune homme, Adolfo de Jesus Costanzo, est un passionné d'occultisme. Sa mère l'a élevé dans des rituels de Santeria, donc qui est une religion syncrétique. Il se prétend lui-même nimbé de pouvoirs surnaturels. Et très rapidement, à l'adolescence, il est né, pour te situer, hein, il est né en 1962. Donc, à l'adolescence, il s'est découvert une passion pour la Santeria. C'est une religion syncrétique, hein. Où on va faire des sacrifices d'animaux, c'est vrai, mais surtout des poulets ou des trucs comme ça. Puis c'est une religion un peu païenne qui nous semble un peu étrange. Certains diront ça ressemble un peu à du vaudou, quoique c'est vrai que de l'extérieur, pour des étrangers comme nous, ces religions-là un peu syncrétiques semblent toutes se ressembler. Pourtant, elles sont toutes très différentes dans le détail, mais néanmoins parce qu'on va manquer de temps. Disons que ça ressemble un peu à du vaudou, des trucs comme ça. Mais il y a une partie... C'est pas mauvais en soi la Santeria. Des millions de gens dans le sud des États-Unis, principalement des gens qui sont d'origine des Antilles, par exemple, soit de Haïti, du Mexique, vont pratiquer soit le voodoo, soit la Santeria. C'est une religion qui est très très répandue. Mais il y a une forme noire au Santeria qui s'appelle le Palo Mayombe. Et ça, c'est vraiment comme l'aspect occulte, vraiment très occulte et négatif de la Santeria.
C'est la plus grande noirceur.
C'est l'équivalent pour la religion catholique du satanisme.
OK.
Et donc, le Palo Mayombe devient la corde forte de ce Jésus Costanzo. Et Costanzo, à force de côtoyer des gens du monde interlope de Mexico, il va faire pour eux des espèces de tirages, hein, comme s'il utilisait des cartes, le tarot, des trucs comme ça. Il fait également des rituels de Santeria, implore les esprits, les démons. Quoique en réalité, quand je dis démons, faut être très prudent parce que dans la Santeria et dans le Palo Mayombe, il y a pas de déité diabolique, il y a pas de démons. Ce sont dans cette religion, dans cette mécanique de sorcellerie, il y a ou des forces bonnes ou des forces mauvaise. Mais il n'y a pas une déité, il n'y a pas un Satan, là, contrairement au satanisme. Donc, ce Adolfo de Jesus Costanzo va contacter ces forces obscures négatives pour qu'elles rendent des services à ces gens du milieu interlope. Et ces gens-là connaissent des succès. Donc, plus ils connaissent des succès, plus la réputation de Costanzo va s'imposer comme étant un grand sorcier. Et lorsque le clan Hernandez est sur le point de s'effondrer parce qu'à la mort de Saul Hernandez, tous les secrets de l'organisation ont été emportés dans l'au-delà, on a besoin de quelqu'un pour redonner un coup de barre, on va faire appel à Costanzo. Et Costanzo, rapidement, va prendre le contrôle du clan Hernandez et à partir de là, va commencer à faire des rituels de magie. Très rapidement. Parce que je vois le temps qui passe.
Oui, il y en a qui écrivent, non, Christian, laisse faire le chrono, l'histoire est bonne.
Très rapidement, Costanzo va passer des sacrifices d'animaux à des sacrifices humains.
C'était pas assez.
Mais pendant les 18 premiers mois de son contrôle, hein, parce qu'il prend le contrôle aux alentours de fin 1987, donc durant les 18 premiers mois, les sacrifices humains, il joue sur les deux tableaux. Hein. Il sacrifie des gens qui appartiennent surtout à des clans opposés, d'autres narcotrafiquants. Donc, on les élimine. Et Costanzo joue sur tous les tableaux. Hein. Il montre à la fois qu'il est un puissant sorcier, mais en même temps, il envoie un message clair aux opposants. Si vous tombez entre nos pattes, si vous nous mettez des bâtons dans les roues, on va vous éliminer. C'est le message qu'envoie Costanzo. Donc, on passe des humains et dans cette religion du Palo Mayombe, on veut créer un égrégore, le Nanga. Donc, on a ce fameux chaudron dans lequel on va essayer de nourrir la Ganga, cette espèce d'esprit qui va protéger le clan Hernandez. Et dans ce Ganga, bien évidemment, plus tu fais des sacrifices humains, plus la force du Ganga va grandir, cet esprit maléfique. Et là, à un moment donné, pour nourrir le Ganga, Costanzo dit à ses acolytes, il faudrait qu'on sacrifie un blanc. Pas rien que des Mexicains, là, non. Faudrait sacrifier un blanc américain, cheveux blonds. Hein? Rappelle-toi notre histoire de la semaine dernière où on parlait du sacrifice de Elise Paylor, hein? Une jeune blonde vierge. Yes, c'est une espèce de fantasme hollywoodien. Ben évidemment, Costanzo qui a grandi aux États-Unis n'a pas échappé à cette vision-là. Donc il dit, il nous faut un Américain, cheveux blonds, étudiant. Et comme il y en a beaucoup qui fréquentent Matamoros durant le congé étudiant, on se dit, voilà, c'est le bon moment de le faire. Et c'est effectivement avec cette mission que trois des membres du groupe Hernandez vont se retrouver à Matamoros, vont kidnapper Mark Kilroy, l'amener sur la ferme de Rancho Santa Elena et vont le sacrifier. Lorsque tout ça est mis à jour, écoute, les policiers de Matamoros vont amener les gens du... Évidemment, il y a un avis d'arrestation, un mandat d'arrestation qui est lancé à travers tout le pays. Éventuellement, les gens qui sont détenus à Matamoros seront amenés à la ferme de Rancho Santa Elena. On leur donne des pelles, on leur dit vous allez creuser. Parce qu'évidemment, ils ont dit c'est là qu'on a enterré les gens de qu'on a sacrifié. Alors, on lui donne des pelles, ils vont creuser.
Ah ouais, eux-mêmes, c'est impressionnant, ça.
Ouais, donc c'est ça. Donc, la police dit, écoute, vous creusez, vous sortez vos propres cadavres. Et effectivement, ils vont mettre à jour plus d'une dizaine de cadavres. Les membres ont été amputés. Et on va retrouver parmi ces victimes, bien sûr, le corps de Mark Kilroy. Détail tout à fait monstrueux. Au moment où il creuse, hein, on voit sur les tombes de fortune où les corps ont été enterrés, il y a comme des petits fils d'acier qui sortent de terre. Et quand les policiers demandent aux gens du clan Hernandez à quoi servaient ces petits fils d'acier, ils disent, bon, on les a accrochés ça sur une vertèbre dans le dos, puis quand le corps est décomposé, on tire sur le fil, on enlève la vertèbre et on peut l'utiliser comme talisman. Et l'idée de ces rituels, c'était de rendre, bien sûr, le clan Hernandez excessivement puissant et, bien sûr, les rendre invisibles. Donc, pour échapper à la police, c'est ça qui est un peu étonnant, hein, quand les gens du clan Hernandez se font arrêter, lorsqu'ils posent à l'agent Benitez, vous nous voyez, ben, c'est effectivement, ils croyaient qu'ils étaient réellement invisibles grâce au pouvoir de Costanzo. Donc, un mandat d'arrestation est lancé à travers tout le pays. Costanzo, à ce moment-là, est pas sous le radar. On sait pas où il est. Et visiblement, il a un appartement très luxueux à Mexico. Bien sûr, la police de Mexico City va investir l'appartement de Costanzo. On retrouve absolument rien. Et puis, voilà qu'à un moment donné, quelques jours après, on est le 6 juin ou quelque chose comme ça. La police reçoit un appel pour leur dire qu'il y a une espèce de tapage dans un appartement qui se trouve en banlieue de Mexico. Donc,
tu sais, ça cogne, là?
Non, un tapage, tu sais, il y a comme si il y avait une dispute, là. Donc, je retrouve ma note. On est le 6 mai 1989. Donc, des gens se plaignent en disant, ben voilà, il y a l'appartement. Une dispute. C'est l'appartement numéro 13. Hein, c'est quasiment symbolique. À l'appartement numéro 13, il y a une dispute. Donc, les policiers se rendent à l'endroit en question. Comme je t'ai dit, c'est un quartier populaire de Mexico City. Et comme les policiers débarquent de leur voiture, ben, ils sont accueillis par des balles d'une mitraillette Uzi. Là. On tire directement sur eux. Les policiers retournent dans leur voiture, appellent des renforts et très rapidement, les policiers vont entourer l'édifice. Des gens, quelque part, au cinquième étage, vont lancer par les fenêtres des billets de banque. Évidemment, ça attire les gens, donc ça nuit au travail des policiers. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a accalmie, les policiers vont investir l'appartement numéro 13, et là, dans un placard, ils vont retrouver Costanzo. Il est là, enlacé avec, parce que il fréquentait des milieux gays. Donc, à ce moment-là, il avait une relation avec un certain Martin Quintana, qui était son amoureux du moment, qui participait, bien sûr, à ses rituels occultes, qui faisait partie du clan Hernandez. Donc, on découvre le corps de Costanzo et de Martin Quintana, qui sont enlacés, qui ont été criblés de balles, et sur le toit, on va apprendre plus tard, là, sur le toit, les policiers vont saisir trois autres personnes qui tentent de fuir en sautant sur l'édifice voisin, et les policiers vont les arrêter. Parmi eux, il y a une femme qui s'appelle Sarah Aldrete, qui est considérée comme la marraine. Hein. Si Costanzo était le parrain, il y avait une femme.
Ouais.
Et même s'il n'entretenait pas une liaison avec cette femme, elle utilisait ses charmes pour attirer des membres, des gens, des hommes, à Rancho Santa Elena, où ils étaient sacrifiés. Donc, elle faisait partie de la mécanique pour recruter des gens. Donc, ils vont arrêter ces trois personnes sur le toit, dont un qui a le surnom de El Dubi, et c'est El Dubi qui va reconnaître que c'est lui, à la demande de Costanzo, qui a criblé de balles Costanzo et Martin Quintana. Ils se sont enlacés dans un dernier baiser parce qu'ils savaient qu'ils allaient être arrêtés par la police, et Costanzo leur se demandait de les exécuter pour pas que les policiers le prennent vivant. Donc, El Dubi les a abattus, et ensuite, avec deux autres complices, donc Sandra Aldrete, ils ont essayé de fuir en passant par les toits, mais malheureusement, les policiers vont lui mettre le grappin dessus.
Je reviens sur un micro-détail dont tu as parlé tantôt, quand l'agent frontalier a eu l'information que, soi-disant, que le jeune aurait traversé. Là, est-ce que c'est justement cette famille-là qui a acheté le silence de ces doux... Non, OK, c'est un
peu... Non, c'est vraiment un laxisme des autorités mexicaines. Okay. je ne veux pas revenir là-dessus, mais je sais que quand je parlais aux policiers du côté américain, ils me disaient que vraiment, là, ils n'ont ils n'ont vraiment pas eu de support de leurs collègues mexicains. C'était vraiment rien, là. Il n'y avait aucun intérêt à ce que la police mexicaine avait. D'ailleurs, la police de Matamoros n'est pas impliquée dans cette affaire-là, hein. C'est la police fédérale, hein. L'agent Benitez, celui qui va arrêter les gens du clan Hernandez, qui va les interroger, qui va mettre à jour l'histoire des sacrifices de Matamoros, c'est la police nationale, la police provinciale, et non pas la police locale de Matamoros, qui, elle, ont littéralement fermé les yeux à la fois sur la disparition de Mark Kilroy, mais également sur le trafic des narcotrafiquants qui se faisait là. Donc, j'imagine qu'il devait y avoir des pots de vin qui servaient à graisser la patte de quelques policiers en devoir. Cette histoire-là va mettre à jour, donc, une histoire tout à fait épouvantable. Une histoire de sacrifice humain. Comme je te dis, c'est 13 cadavres qu'on va retrouver, dont celui de Mark Kilroy, qui ont été exécutés sur une période d'à peu près une année. Tout ça dans le but d'obtenir l'invisibilité, obtenir également un pouvoir qui permettrait au clan Hernandez de croître et de profiter davantage de ces trafics des narcotiques. Et à cette époque, la presse américaine, je me rappelle avoir suivi l'affaire à l'époque dans la presse, on avait parlé de narco-sataniste. Mais encore une fois, on voit que la presse américaine ou canadienne, on avait le mot sataniste un peu vite, hein, parce que, encore une fois, faut le mentionner, faut bien le préciser, dans le Palo Mayombe, il n'y a pas de déité qui soit diabolique. Ce sont ou des forces positives ou des forces négatives, mais il n'y a pas de Satan en lui-même. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là aussi, c'est que pour recruter des gens, on avait besoin d'un modèle américain. Ça, c'est fascinant. Il y avait, quelques années plus tôt, il y avait un film qui était sorti au cinéma qui s'appelait The Believers. En français, c'était Les Envoûtés. Le film était sorti en 87, donc 2 ans plus tôt. Ça mettait en vedette Martin Sheen. Et l'histoire, c'est un groupe de gens américains qui vont sacrifier un de leurs enfants, leur premier-né, dans des rituels de Palo Mayombe. Mais là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Là, c'est le cinéma. Donc, on fait des sacrifices de notre premier-né dans des rituels de Palo Mayombe dans l'espoir d'obtenir du succès en affaires, en amour ou peu importe. Donc ça, c'est une vision très hollywoodienne, hein? Donc on a vu plein de films à Hollywood sur les zombies puis sur le voodoo qui n'ont rien à voir avec les zombies, rien à voir avec le voodoo. Donc ce film The Believers, Les Envoûtés avec Martin Sheen, parle du Palo Mayombe, donne une vision très américanisée de ce qu'est le Palo Mayombe, puis une vision très simpliste, hein? Parce que pour avoir côtoyé des gens qui ont pratiqué à la fois le Palo Mayombe ou encore la Santeria, lorsque j'ai fait mon investigation et mes reportages, ce sont des mécanismes religieux très, très complexes. Donc, c'est une vision très simpliste. Mais néanmoins, Costanzo, qui avait vu le film, qui était fasciné par le film, s'inspirait de certains aspects théâtrales hollywoodiens qu'il avait incorporés à ses propres pratiques de Palo Mayombe. Et ils utilisaient, crois-le ou non, le film pour attirer des gens dans le mouvement. Donc, lorsque Sandra Aldrete rencontrait des hommes, elle essayait de les séduire par ses charmes. Elle leur faisait voir également le film Les Envoûtés. Et elle disait, voilà, nous, on fait des sacrifices humains. Et si tu participes avec nous à ces sacrifices humains, tu vas connaître le succès dans tes affaires, etc. Et à travers ça, ça peut paraître invraisemblable parce qu'on a un recul, on a une vision occidentale. On se dit, mais voyons, c'est de la sorcellerie de bon niveau. Et pourtant, ça fonctionnait. Ils ont recruté des dizaines de personnes qui ont participé avec eux, avec ces rituels épouvantables. Et comme je vois que le temps file, uniquement te dire que depuis l'histoire de Matamoros, depuis la mort de Mark Kilroy, la famille Kilroy ont fait une fondation qui s'appelle la Fondation Mark Kilroy pour aider les jeunes qui auraient des problèmes de toxicomanie à s'en sortir. Et de leur côté, ceux qui ont fait partie du clan de Costanzo, qui ont participé à ces rituels pas satanique, mais de sorcellerie noire sur le ranch de Matamoros. Ces gens-là ont tous été condamnés à de très longues peines de prison. Il faut savoir qu'au Mexique, la peine de mort n'existe pas. Mais si on prend, par exemple, dans les peines les plus sévères, Sarah Aldrete, donc la marraine, hein, celle qui séduisait les hommes pour les amener dans le clan, elle a été condamnée à 67 ans de réclusion. la
de
bonne
réclusion,
nuit.
Ah oui, okay.
De réclusion. Donc, elle est en prison. Mais il faut savoir que la prison au Mexique, si t'es condamné à 67 ans de prison au Mexique, tu vas faire 67 ans et pas un jour de moins. Il n'y a pas de libération conditionnelle. La peine, c'est la peine et elle doit être purgée.
Le pouvoir donc, des leaders de secte, hein, c'est ce qu'on a à retenir.
Donc, à travers ça, donc tous les gens, tous ces narcotrafiquants qui s'adonnaient à ces rituels sataniques sur la frontière américaine ont tous été arrêtés. Ils ont été condamnés à de lourdes peines et le clan Hernandez a été dissolu. Mais comme on est dans un univers assez obscur, il est pas parce que pour avoir été sur place, j'ai vu à quel point, je te le dis, j'ai vu à quel point l'idée de la sorcellerie peut être omniprésente dans les milieux occultes qui sont du côté de la de ce côté-là de la frontière. Et je serais pas étonné, j'irais pas jusqu'à dire qu'on fait encore des sacrifices humains, mais il est pas interdit de penser que certains groupes qui se livrent à du narcotrafic participent encore à des rituels de sorcellerie pour augmenter leur pouvoir. Peut-être pas aussi loin que ce que Costanzo avait imaginé pour le clan Hernandez en passant par les sacrifices humains. Mais cette histoire-là a marqué de manière très, très profonde la ville de Brownsville, là où les incidents se sont produits. Et encore aujourd'hui, malgré les années passées, tu vas à Brownsville et dès qu'on commence à parler de crimes, quel qu'il soit, très rapidement, on nous évoque cette disparition et cet assassinat de Mark Kilroy. Et il faut quand même le préciser, n'eût été l'erreur de Costanzo, c'est d'avoir assassiné un blanc américain. S'il avait continué d'assassiner des Mexicains, Costanzo et le clan Hernandez seraient peut-être encore aujourd'hui tout à fait en santé et en activité.
Ah, puis c'est peut-être de là, tu saurais confirmer, Christian, le fameux syndrome de la missing white girl. Là.
Oui, oui.
C'est qu'on accorde beaucoup d'attention à des disparitions de personnes blanches dans les médias plus que de d'autres
ethnies. Que des gens de d'autres ethnies. Oui, oui, absolument. Oui, absolument.
Ça vient un peu de là, il y a un peu de ça là-dedans.
Aucune des victimes, et dans le cas de Costanzo, parmi les victimes, on a trouvé trois jeunes personnes, hein, 12, 13 ans à peu près, donc ils ont sacrifié des adolescents.
Ah.
Aucune des victimes assassinées par Costanzo n'avait fait l'objet d'une disparition.
Ça,
il a fallu
triste.
Attendre Mark Kilroy pour que l'histoire soit mise à jour.
Pensez-y ce soir, qui va vous réclamer si vous êtes porté disparu? Je vous laisse dormir là-dessus, Christian. Ça a été une excellente semaine. Le chronomètre me dit qu'on est déjà sur le show de Jean-Francis. C'est pas grave, je m'arrange avec les pauses. Et je te souhaite une excellente fin de semaine. Demain, ce sera les meilleurs moments de ce qu'on a vécu ensemble cette semaine. Et
bien,
on se retrouve
beaucoup.
Lundi.
Oui, absolument.
Bye-bye.
Bonne soirée puis bon week-end à tout le monde. Ciao.
Merci à toi aussi.